Voilà, donc pour ceux qui sont visiteurs, c'est juste pour vous dire, vous mettre au courant que l'Église passe par un moment difficile parce que nous avons perdu un de nos frères cette semaine, dans des conditions qu'on ne comprend pas toujours, mais nous sommes toujours là. Et donc nous avons trouvé dans le Seigneur, dans la parole, une parole pour nous aujourd'hui. Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de Michée. Je vais vous donner un peu de temps pour le trouver, hein, livre de Michée. Donc c'est après Jonas, hein, c'est dans la dernière partie de l'Ancien Testament. Alors Michée, c'est, si vous êtes arrivé à Matthieu, vous êtes allé trop loin. Si vous trouvez Jérémie, vous n'êtes pas assez loin. Alors voilà, Michée. Chapitre 7. Michée, chapitre 7. Chez moi, c'est page 1299. Je ne sais pas si ça correspond à quelque chose chez vous. Voilà. Donc, Michée, chapitre 7. Et je vais lire à partir du verset 7. C'est surtout le verset 7 qui va être fixer notre pensée. Mais je vais lire à partir du verset 7 jusqu'au verset 14. Voilà, verset 7. Michée, chapitre 7, verset 7. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Je supporterai la colère de l'Éternel, puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me conduira à la lumière et je contemplerai sa justice. Mon ennemi le verra et sera couvert de honte. Elle qui me disait « Où est l'Éternel ton Dieu ?» Mes yeux se réjouiront à sa vue, alors elle sera foulée aux pieds comme la boue des rues. Le jour où l'on rebâtira tes murs, parlant de Jérusalem, ce jour-là tes limites seront reculées. En ce jour-là, on viendra vers toi de la Syrie et des villes de l'Égypte jusqu'au fleuve, d'une mer à l'autre et d'une montagne à l'autre. Le pays sera dévasté à cause de ses habitants, à cause du fruit de leurs œuvres. Et voici la prière de Michée. Paix ton peuple avec ta houlette, le troupeau de ton héritage qui habite solitaire dans la forêt au milieu du Carmel, qu'il pèse sur le Bazan et en Galade, comme au jour d'autrefois. Michée est un des, on dit des petits prophètes ou des prophètes mineurs, et pas parce qu'ils étaient moins importants, c'est seulement parce que leur prophétie était plus courte et leurs textes sont plus courts, c'est tout. Mais Michée était à cette époque où Israël passait par un moment difficile. Ils avaient été désobéissants, s'étaient éloignés de Dieu, et alors le malheur était venu. Et il parle comme s'il faisait partie de ce peuple, et il parle comme un peuple qui doit subir les conséquences de leurs actions. Ils les acceptent, ce sont les conséquences. Et il ne peut pas y échapper. Voilà, il faut traverser, il faudra traverser. Les conditions sont assez graves, hein, parce que vous voyez déjà au verset 1, il dit « Malheur à moi !»« Malheur à moi !» C'est comme ça qu'il commence. La situation est critique. Parce que regardez au verset 2, ça commence « L'homme de bien a disparu du pays. » Verset 3, « Les hommes sont habiles à faire le mal. » Verset 4 commence « Le meilleur d'entre eux est comme une ronce. » Le verset 5 dit « Ne crois pas à un ami. » Verset 6, il dit « Car le fils outrage le père, la fille se soulève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère, chacun a son ennemi, a pour ennemi les gens de sa maison. » Donc la condition est terrible. Hein, et Miché dit « Malheur à moi !» Mais Miché, au sein de cette situation, une situation que nous pourrons rencontrer, nous pourrions rencontrer, que peut-être que nous avons déjà rencontré. Vous savez, c'est pas parce qu'on est à Christ que tout d'un coup, c'est que de la pente douce pour le reste de la vie. Hein. Si vous avez vécu ça, et si vous n'avez pas eu de difficultés dans votre vie chrétienne, c'est que vous venez de devenir enfant de Dieu, ou bien, je ne sais pas où vous êtes, hein. Mais ça vient, les moments difficiles sont là. Et souvent, c'est là où vraiment on approfondit notre marche avec le Seigneur, parce que c'est dans les moments difficiles qu'on est plus proche. Vous savez, deux personnes qui vivent une même expérience, eh bien, il y a un lien qui ne se défait jamais. Hein, c'est quand on passe par un moment difficile ensemble, ce souvenir reste là et crée un lien pour toujours. Et donc, ces expériences difficiles qu'on peut traverser avec le Seigneur, eh bien, ça affermit les liens. Et nous sommes, nous découvrons notre Dieu. Miché se trouve ici dans cette situation. Il est comme s'il était seul, parce qu'il ne peut faire confiance à quiconque, hein, un peu la description qu'il donne. Il n'y a personne vers qui se tourner. Tous cherchent leur propre intérêt. Tous sont prêts à tout pour obtenir leur intérêt. Rien, même pas la moralité, ni le respect du prochain ne peut les retenir. Hein, c'est vraiment grave, la situation. Miché dit au peuple, il n'y a plus rien à obtenir, il n'y a rien à grappiller après les vendanges. Vous voyez le verset 1, il dit, malheur à moi, je suis comme à la récolte des fruits, comme au grappillage après la vendange. Il n'y a point de grappe à manger, point de ces primeurs que mon âme désire. Vous savez, je ne sais pas si vous avez fait les vendanges ici, mais... Il y a les toutes petites grappes, on ne fait pas attention, on les laisse et on continue. Quand on fait les vendanges, il y a toujours les petites grappes qui restent ou celles qui mûrissent tardivement. Et donc, on peut toujours revenir et trouver un peu de raisin quand même. Mais là, il dit, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est, après la récolte, il n'y a rien à grappiller. C'est vraiment triste, cette situation. Et tout est ruiné autour de lui. L'avenir semble bouché, mais Miché ne perd pas courage, pour deux raisons. Et toutes les deux sont des raisons valables, elles sont suffisantes à elles-mêmes. La première, il est vivant, et la deuxième, le Seigneur est là. Hein? Et c'est comme ça qu'il commence au verset 7. « Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. » Je suis vivant, je peux regarder, et il y a l'Éternel, je regarderai vers lui. Il n'y a rien d'autre, mais je regarderai vers lui. Et on peut se trouver souvent dans des situations comme ça, où on ne sait plus où se tourner, on ne sait plus quoi faire, on n'a pas d'explication, on n'a rien du tout. Mais à partir du moment que, comme disait le philosophe, il dit « je pense, donc je suis ». À partir du moment que je pense, je suis, Dieu est, et donc... À deux, on peut y aller. C'est un peu cette situation, je ne sais pas si vous avez fait du scoutisme ou l'équivalent, hein, mais vous avez ce feu, et il reste encore de la fumée, un petit peu de fumée, un petit filet de fumée. Et tant qu'il reste un peu de fumée, vous pouvez espérer revoir la flamme. Hein, donc, tant que dans cette situation difficile, et tant qu'il y a j'ai du souffle, et tant que et Dieu est, eh bien, on peut revoir la flamme. Et vous savez, l'espoir qui est bien fondé devient de l'assurance. Hein. L'espoir qui est fondé sur quelque chose de sûr, sur une parole sûre, sur une personne digne de confiance, et bien tout d'un coup, j'ai de l'assurance. Et ça change tout. C'est quand j'espère en quelque chose où il n'y a rien qui me permet de l'espérer, alors c'est là où je dis j'espère, j'espère. Et on espère que espérer fera quelque chose. Mais quand j'espère parce que j'ai quelqu'un qui peut intervenir, alors là tout d'un coup ça change le paysage. Le pasteur Tony Evans, qui est pasteur à Dallas, hein, qui vit actuellement, juste pour dire deux mots sur Tony Evans, si vous comprenez l'anglais, ce serait vraiment intéressant de l'écouter. Mais c'est le premier Afro-Américain qui a pu parler à la radio aux États-Unis. Hein, vous connaissez un peu, je ne rentre pas dans cette situation. Mais c'est le premier qui a eu le droit, et c'était un prédicateur. Il a prêché à l'Institut biblique Moody, hein, si vous n'avez pas entendu parler. Mais donc, ce n'est pas si vieux, hein, il est vivant. Mais il a prêché. Et c'est donc Tony Evans qui a pris cette illustration que j'ai écouté sa prédication hier soir, en fait. Et j'ai vu cette illustration. Alors, regardez avec moi dans Marc chapitre 4. Marc chapitre 4. J'ai apprécié cette illustration biblique. Marc chapitre 4. L'évangile de Marc, et au chapitre 4, et le verset 35 à 41, je vais vite lire le passage pour remettre l'histoire et les détails, mais regardez les détails aussi, hein, ce n'est pas juste l'histoire. Marc, chapitre 4, verset 35, il dit « Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque, où il se trouvait, et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, donc Jésus, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis de grande frayeur et se dirent l'un à l'autre, « Mais quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Mais pourquoi ils se sont adressés à lui, hein, s'ils ne croyaient pas qu'il avait le pouvoir sur cela? Et mais remarquez que... il y a la tempête sur la mer, c'est le tourbillon, l'eau commence, la barque commence à se remplir, il y a de quoi s'inquiéter. Hein, moi, je serais un peu comme eux, hein, peut-être plus. Mais il dit, mais au sein de la tempête, Jésus dormait. Alors, il dit, mais oui, c'est... avoir un sauveur qui dort quand on passe par les moments difficiles, ça, il dit, ça sert à quoi? Le pasteur Tony Evans, il a souligné, il a dit, vous avez remarqué qu'il dormait sur un coussin. Il dit, quand on dort sur un coussin, on s'endort sur un coussin, c'est qu'on avait l'intention de dormir. C'est pas seulement, on s'est assoupi et puis, Non, s'il y a un coussin qui est là, bien placé, c'est qu'on en fait exprès. Donc, Jésus avait l'intention de dormir et il a dormi. Alors, les disciples, eux, tout d'un coup, la tempête est arrivée pendant la nuit, pendant le voyage. Ils sont au milieu de la mer et là, ils sont pris de panique. Et Jésus semble être carrément inconscient du danger. Lui, il est ailleurs. Et il se peut que nous soyons dans des situations des fois où on se dit, mais oui, où est Jésus ? Il pense même pas à moi, il est ailleurs, il est occupé avec autre chose. Et moi, je passe, c'est le danger terrible. Et alors, Pierre, bien sûr, il vient, et il vient réveiller le Seigneur. Il dit, mais tu... comme ça, tu penses pas, tu te rends compte? Et Jésus, il se réveille. Il dit, de quoi ? Il y a un problème ? Ah mais tu as les pieds dans l'eau même, tu l'as allongé dans l'eau. Ah mais il y a un problème. Et en plus il dit, pourquoi avez-vous peur ? Vous avez plein de foi ? Non mais tu comprends pas. On est en train de se noyer, toi avec nous, on va tous couler, et toi tu dis, tu parles de foi. Foi, quoi ? C'est pas le moment. Hein ? La religion, c'était sur le bord de la mer, mais ici, c'est grave. Mais vous avez remarqué qu'au verset 35, Jésus avait dit, passons à l'autre bord. C'est-à-dire qu'il avait l'intention de passer à l'autre bord. Et pour lui, on allait passer à l'autre bord. De quoi tu t'inquiètes ? Le problème avec les disciples, c'est qu'ils ont oublié ce qu'il avait dit, et ils ont commencé à voir la tempête, ils avaient les yeux sur la tempête, et c'est pour ça qu'ils s'étaient paniqués. Et ils ont oublié, c'est pour ça que j'ai dit, mais où est votre foi ? Moi, je vous ai dit qu'on passait de l'autre bord. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de tempête, je vous ai dit que tout serait la mer, c'est calme, hein, et puis... non, mais j'ai dit qu'on passerait de l'autre bord. Et... nous aussi, nous devons garder dans nos pensées les promesses du Seigneur. Même quand on passe par les moments difficiles, si on regarde seulement au vent, la tempête, le tourbillon et l'eau dans la barque, c'est sûr qu'on va paniquer. Mais si on se souvient de cette parole du Seigneur, il dit « passons à l'autre bord ». C'est moi qui vous ai dit de prendre la barque, c'est moi qui ai dit qu'on passe de l'autre côté, maintenant... Dans un sens, Jésus était en train de dire, écoutez, normalement, vous devriez vous souvenir de ce que j'ai dit et tous avoir des coussins et tous dormir. Bon, c'est trop souvent, nous sommes un peu comme les disciples, n'est-ce pas ? Mais nous pouvons traverser une tempête, mais gardons les yeux fixés sur le Seigneur. Et comme il nous dit dans Hébreux 12, verset 2, il nous dit, « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur, celui qui a initié et celui qui a réalisé la base de notre foi, en qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Il a dit, « Gardez les yeux fixés sur lui. » Alors, ici, je reviens à Michée. Michée chapitre 7, il nous dit, mais pour moi, je regarderai à l'Éternel. Il n'y a rien à voir si je regarde ce qui se passe autour de moi, il y a de quoi faire une grosse dépression. Mais il dit, mais pour moi, il répond, pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Et Michée suggère un comportement pour les temps difficiles. Il sait la situation est impossible, mais Michée sait que ce qui lui reste à faire. Donc verset 7, première chose, eh bien regardez à l'Éternel. Première chose, regardez à l'Éternel. Quand tout va mal, on lève les yeux. Vous savez, et c'est Tony Evans dans une autre prédication qui disait. Il y a une grande différence entre voir Dieu au travers de nos circonstances et voir nos circonstances au travers Dieu. Ce n'est pas la même chose. Dans le premier, hein, si on regarde Dieu au travers de nos circonstances, c'est le désespoir. Si nous regardons nos circonstances à travers Dieu, eh bien ça redonne confiance. C'est important, et là je vais faire appel à une autre tempête que les disciples ont traversée. Là, il n'était pas dans la barque, c'est dans Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14, si vous voulez, on va regarder ça ensemble. Matthieu chapitre 14, c'est une autre traversée. Je ne vais pas lire le passage, mais c'est à partir du verset 22. Jésus, après la multiplication des pains, Jésus les oblige à monter dans la barque. Puis il nous dit au verset 24 qu'ils arrivent au milieu de la mer et tout d'un coup, la barque est battue par les flots, le vent était contraire. Et là, il nous dit à la quatrième veille, donc vers minuit, Jésus arrive, vient vers eux. Et verset 26, il nous dit, quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Eux, ils voient venir Jésus sur la mer, vous savez comme ça, il y a les vagues, ça monte, ça descend, et puis tout d'un coup, il apparaît, puis après il disparaît, puis il réapparaît, c'est qui? Et tout d'un coup, et puis là, excusez-moi mes sœurs, mais là, ils se mettent à crier comme des femmes. Hein. Ils sont dans la panique. Ces hommes, ils sont 12. Mais qu'est-ce qu'ils voient? Mais parce que ils voient le Seigneur, mais au travers des circonstances. Eux savent qu'ils sont dans la tempête. Et puis ils regardent, et quand ils voient Jésus au travers des circonstances, ils voient un fantôme qui les effraye, qui les épouvante. Mais Jésus parle, dit, mais c'est moi, n'ayez pas peur, verset 27. Il dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Alors Pierre répond, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et Jésus dit, bah viens. Et Pierre, sans réfléchir, certainement il ne l'aurait pas fait s'il avait réfléchi, mais sans réfléchir, eh ben, il enjambe le bord de la barque et puis il commence à marcher. Et il marche. Et verset 24, donc verset 29, il dit, viens, et Pierre sortit, et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Verset 30, mais voyant le vent, que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Tout d'un coup, il est en train de marcher sur l'eau, tout d'un coup il voit, mais le vent et les vagues étaient là avant. Il était encore dans la barque et le vent et les vagues étaient là. Les circonstances n'ont pas changé. Ce qui a fait la différence, c'est où il avait les yeux. Tant que ses yeux étaient sur le Seigneur et il s'appuyait sur cette parole du Seigneur qui a dit « Viens », elle est courte, mais il y a beaucoup de puissance, même dans une parole du Seigneur. Il lui a dit « Viens » et que cette parole « Viens » était suffisante pour le maintenir et de résister aux lois de la pesanteur et de marcher sur l'eau. Mais après, tout d'un coup, il regarde, il détourne les yeux, il revoit les circonstances et là, il commence à couler. Tant qu'il faisait confiance à l'ordre du Seigneur, ça allait. Les circonstances étaient les mêmes. Il n'y avait rien, absolument rien de changé. Mais lorsqu'il a commencé à regarder aux circonstances plutôt qu'au Seigneur, eh bien, heureusement pour lui, il a crié « Sauve-moi hein, !» Parce que sinon, on n'aurait pas entendu parler de la suite. Et Jésus, aussitôt, nous dit, c'est au verset 31, aussitôt, il étend la main, le saisit, et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Tout simplement. Il dit... Le problème, ce n'est pas le vent, le problème, ce n'est pas la mer, c'est toi qui as douté. J'avais dit, tu as oublié ma parole, tout d'un coup, tu as pensé à autre chose, et tout d'un coup, c'est ça qui fait la différence. Et dans notre marche avec Dieu, eh bien, ce sera exactement la même chose. C'est l'importance que nous donnons à la parole de Dieu qui fera toute la différence de comment on vit les mêmes circonstances, les mêmes expériences, les mêmes difficultés. La question, ce n'est pas une question par quoi est-ce que je passe, mais si est-ce que je fais confiance au Seigneur. Et Michée, dans cette, lui aussi, au sein de sa tempête, il a choisi de se tourner vers l'Éternel. Il a dit, pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 12, Josaphat se trouvait au sein d'une terrible menace. Les armées étrangères arrivaient sur Jérusalem et ils savaient qu'ils ne pouvaient pas résister. Et alors il s'est crié à l'Éternel et il dit, ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. » Et vous pourrez lire 2 Chroniques 20 et vous verrez comment ça se termine. Mais il dit, nos yeux sont sur toi. C'est-à-dire, voilà, nous, oui, si on regarde les circonstances, on est dans la panique. Mais si on te regarde vers toi, et c'est toi qui t'occupes des circonstances. Qu'est-ce que Michée a fait au milieu de cette épreuve? Eh bien, elle dit, je regarderai vers l'Éternel. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'il dit? À la suite du verset 7, donc la suite du verset 7, il dit, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Voilà, premièrement, je regarderai vers l'Éternel. Deuxièmement, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Il est bon pour nous de nous rendre compte que nous ne pouvons plus rien nous-mêmes. Hein, il arrive des moments où c'est autant l'admettre. L'apôtre Paul était arrivé au point de maturité spirituelle, et c'est un point de maturité spirituelle qui lui permet de dire « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de maturité, de dire « Je puis tout ». T-O-U-T, ça veut dire « tout ». Ça veut dire « il n'y a pas d'exception ». « Je puis tout par celui, donc Dieu, qui me fortifie ». Celui qui reconnaît son incapacité trouvera de l'aide. Je vous pose la question, puis surtout nous les messieurs. Quand nous sommes perdus, ça prend combien de temps avant qu'on demande à quelqu'un de nous aider? Certains d'entre nous, très longtemps, « Non, je vais encore essayer, je vais encore. » Et puis on tourne une heure... Une demi-heure, et l'épouse à côté qui dit, mais bon, si demander à quelqu'un, ça gagne du temps, mais bon, elle le connaît trop bien pour dire quelque chose, donc elle attend. Elle l'aurait demandé beaucoup plus tôt. Et vous savez, parfois, c'est l'orgueil qui nous empêche d'admettre notre incapacité. Et puis, entre-temps, la situation s'aggrave. Hein? On devient de plus en plus perdu. Vous savez... Dès que je prends conscience du fait que je ne peux plus, eh bien, il faut demander de l'aide. Demander de l'aide, pas n'importe quoi, mais à n'importe qui, mais à quelqu'un de confiance. Et Dieu est une personne de confiance. Et l'apôtre Michée dit, ce prophète, il dit, « Moi, eh bien, je mets mon espérance dans le Dieu de mon salut. Celui qui m'a sauvé, c'est vers lui que je vais me tourner. Celui qui a démontré son amour pour moi, alors que j'étais encore pécheur, il est mort pour moi. C'est en lui que je vais placer ma confiance. Il a démontré qu'il est digne de confiance. On est en période d'élection, là, et puis alors, il y a toutes ces promesses et tout ce qu'on va faire. Et puis, en même temps, on est là, on écoute, et puis on se dit, mais bon, il y a combien de ça qu'il va faire, hein? Mais le Seigneur, lui, garde sa parole. Il en fait un honneur. Michée a recours au Dieu qui est le Sauveur, le Seigneur. Celui qui s'intéressait assez, hein, je fais confiance à celui qui s'intéressait à moi suffisamment pour mourir sur la croix. Hein. Jésus dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Dit voilà le signe. Qui est-ce qui a donné sa vie pour toi? Vous avez, j'espère que vous n'avez pas eu trop de mauvaises expériences avec les avocats, mais vous savez, les avocats, on les paye. Et après, si on va en prison quand même, c'est pas lui qui va en prison, hein. C'est vous. C'est vous. Il lui prend pas. Non, mais celui qu'on a dans le ciel, Jésus-Christ, notre avocat, lui, il a dit. Moi, je vous défends, mais et puis s'il y a quelque chose à payer, c'est moi qui le paye. Et il est mort sur la croix pour nous. Et il a pris, et puis il dit, toi, je suis ton avocat, c'est-à-dire, je prends, et la peine tombe sur moi. et vous passez. Vous dites, oh, ça, c'est un avocat. Eh bien oui, c'est Jésus-Christ. On peut compter sur lui. Dit premièrement, moi, eh bien je regarderai l'Éternel. Deuxièmement, moi, pour moi, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Et troisièmement, il dit, pour moi, mon Dieu m'exaucera. Quelle confiance! Il comptait sur l'exaucement de Dieu. Et qu'est-ce qu'il... cet exaucement, qu'est-ce que c'était, hein? Parfois, on a des drôles d'idées, on croit qu'il doit nous donner tout ce qu'on a envie d'avoir. Et il dit, il ne m'a pas répondu, moi je voulais ça, je vais demander ça. Et puis là, attendez, mais quel est le plus grand besoin? Eh bien, voilà comment Dieu a exaucé. Il dit, il m'exaucera. Regardez au verset 8. Il dit, car si je suis tombé, je me relèverai. Voilà l'exaucement. Si je suis tombé, je me relèverai parce que lui me relèvera. Voilà la réponse. Peut-être que je suis passé par un moment difficile. Peut-être est-ce que j'ai faibli. Peut-être que j'ai glissé. Peut-être. Mais il me relèvera. Il dit, ça c'est la promesse, c'est l'engagement de Dieu. Il ne nous demande pas d'être des super forts. Vous savez, dans ce monde, il faut être un fort, sinon on se marche dessus. Et si on est un faible, tant pis pour toi. Mais avec le Seigneur, on est tous des faibles d'abord. Mais comme le bras du Seigneur est là, il n'est pas trop court pour intervenir, eh bien, il nous relèvera. Il continue là, au verset 8, à la fin il dit, « Et si je suis assise, et c'est Israël, hein, si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. » Et dans les ténèbres, ce n'est pas juste la nuit, hein. Les ténèbres, vous savez, émotionnellement, on peut être dans les ténèbres. Hein. La dépression, c'est une grotte sombre, n'est-ce pas, pour ceux qui sont passés par là. Mais il dit, « Mais il mettra de la lumière. » Vous savez où était Élie? Il était au fond de la caverne. Et Dieu est allé jusqu'au fond de la caverne, sa voix est allée au fond, et puis il l'a fait sortir de là. Vous savez, si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Troisième exaucement, verset 9, il dit, « Je supporterai la colère de l'Éternel puisque j'ai péché contre lui. » Jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse le droit. Il dit, oui, je comprends que j'ai péché, il y a des conséquences, mais je sais qu'après les conséquences, il me donnera mes droits. Oui, peut-être c'est moi qui m'y suis mis dans cette situation, peut-être c'est moi qui n'ai pas fait confiance, peut-être c'est je l'ai fait délibérément, et les actes volontaires, on est tous coupables de certains actes, certains péchés volontaires. Mais il dit, d'accord, je subirai les conséquences. Mais je sais qu'après les conséquences, il me relèvera. Il me donnera mes droits. Il défendra ma cause. Et puis quatrièmement, c'est la deuxième partie du verset 9, il dit, il me conduira à la lumière et je contemplerai sa justice. Sa justice, elle n'est pas sur terre, elle est dans la gloire. Il dit, il me conduira à la lumière et je contemplerai sa justice. Voilà les réponses. Il m'exaucera, je peux compter sur lui. Quel que soit le trajet, peu importe par où on passera, ce qui importe, c'est que, comme Jésus avait dit aux disciples, passons à l'autre bord. On arrivera à l'autre bord. Après, ce qui peut y arriver en chemin, c'est très différent pour les uns les autres. On n'est pas tous traités pareil. On n'a pas tous la même vie. On n'est pas tous nés avec une cuillère en or dans la bouche. Mais bon, peu importe. Ce qui importe, c'est que, il me dit, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai en lui ma espérance. Il m'exaucera. Et peu importe par où je passe et ce que je dois subir, et même si j'en suis digne et c'est tout à fait juste que je subisse ces choses, mais je sais que je le retrouverai au bout et il me recevra. Et c'est ça qui nous donne de l'espérance. C'est ça qui nous donne la confiance. Voulez-vous faire une idée de comment Dieu vous traitera et comment ça se passera? Eh bien, vous lisez l'Ancien Testament et vous voyez comment Dieu se comporte avec le peuple d'Israël. Parfois, il était le seul Dieu et tout ça, et c'était merveilleux. Parfois, ils étaient vraiment pires que les ennemis, hein, pires que les païens. Mais, vous savez, ils sont toujours là. Et vous arrivez dans le livre de l'Apocalypse, ils sont encore là. Ils sont encore là de notre jour. Et ils seront là jusqu'à la fin parce que Dieu s'est engagé. Il a fait une promesse à Abraham et il la gardera. Et ce n'est pas le comportement des hommes qui peuvent changer la manière dont Dieu accomplit sa promesse. Lui, il donne une parole, il la garde. Vous savez, ça nous rassure. Parce que parfois aussi, nous, on n'est pas, notre performance n'est pas ce qu'elle devrait être. Et nous passons par des moments difficiles, des moments de faiblesse, des moments de découragement. Il y a des moments où on dit des choses à Dieu. Et j'ai déjà eu des personnes dire, ouais, j'ai dit des choses, je regrette ce que j'ai dit à Dieu. Oui, tout ça. Mais la question, c'est que je peux toujours me tourner vers lui. Et il m'exaucera. C'est-à-dire qu'il sera au bout. Il m'accompagnera et puis je le retrouverai. Et je serai, à la fin, je serai dans la lumière, dans la justice et avec lui. Pourquoi est-ce que je vous ai dit que l'Ancien Testament peut nous donner une bonne idée de comment le Seigneur se comportera avec nous? C'est pas une excuse pour faire du n'importe quoi, parce qu'ils ont quand même payé cher leur bêtise. Mais c'est que l'apôtre Paul nous rappelle dans 1 Corinthiens 10, il dit « Ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. » Et au verset 11, il dit « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Donc, l'Ancien Testament est là. C'est sûr que ce n'est pas toujours beau. Et parfois, ce n'est pas beau du tout. Mais ça me rassure parce que je dis que même quand, s'il y a des moments, des périodes pas belles dans ma vie, mais quand je suis au Seigneur, il m'accompagne et il m'attend de l'autre côté. Il m'attend quand je sors de mon état, et puis il est là, et il m'accompagne. Ça, c'est le Dieu de la Bible. C'est pas celui que le monde invente. Vous cherchez le Dieu que les hommes inventent, c'est un Dieu, soit c'est une assistante sociale qui est là chez qui on va pour tous nos problèmes, et puis les règles, ou bien pour d'autres, Dieu, c'est celui qui est le valet, et tout ce que je veux, il doit me le donner, parce qu'il est bon. Il y a pour d'autres, Dieu, c'est, ben, il est méchant, hein, bon, il vaut mieux l'éviter et longer les murs parce que lui, dès qu'on fait une bêtise, et certains ont été enseignés avec un Dieu pareil, mais ce n'est pas le Dieu de la Bible. D'autres disent, mais oui, mais Dieu, hein, si tu n'es pas gentil, si tu n'as pas plus de bonnes œuvres que tu as de mauvaises œuvres, eh ben, il n'espère rien de chez lui. Mais ça, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. C'est le Dieu que les hommes ont inventé et qui reflète en finalement leur cœur et leurs pensées. Mais le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui reste ce qu'il est, quel que soit le comportement des hommes. Et c'est quelqu'un à tout moment vers qui on peut se tourner et il nous reçoit toujours. Et alors, Michée arrive... Il a une prière. Et tout à l'heure, je vous ai dit, c'est le verset 14, il fait une prière. Oh, elle est courte, mais elle est claire. Il dit, paie ton peuple avec ta houlette, le troupeau de ton héritage. Et là, il fait référence à par exemple, le psaume 23, hein, l'Éternel est mon berger. Et puis après, vous savez, dans le psaume, après, il y a un moment où il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette, c'était pour la brebis. C'est pour la conduire. la récupérer, c'était celui qui est crochu, là, ça permettait de le tirer vers soi, tout ça. La houlette, c'était pour la brebis. Le bâton, c'était pour le loup et toutes les menaces. Alors ici, il dit, Dieu, eh bien, ton peuple, c'est ton troupeau. Tu es le berger. Eh bien, fais usage de ta houlette pour récupérer, pour attirer vers toi. Hein, la houlette avec ce crochet-là, et puis il récupère et puis il amène la brebis vers lui. Il dit, paie ton peuple avec ta houlette. Il dit, qui habite solitaire dans la forêt. Vous savez, une brebis solitaire dans la forêt, c'est pas bien. C'est dangereux. Tout est menace. La brebis, elle est sans le berger, elle n'est qu'un repas. Et il dit, écoute, actuellement, elle est solitaire dans la forêt. Mais sois un berger pour elle, va la chercher. Hein, c'est cette image que Jésus nous donne aussi. Chaque fois qu'il parle de la brebis, il parle du berger qui va chercher la brebis jusqu'à ce qu'il la trouve et qu'il la met sur ses épaules avec joie et qu'il la ramène. Alors que elle était perdue, elle était parce qu'elle n'avait pas suivi le berger. C'était sa faute à elle qu'elle était là-bas. Si ce n'était pas le cas du berger, c'était un autre, il aurait dit, ben, tant pis pour elle, hein, c'est pas elle qui, elle n'a pas suivi. Ben, tant pis, ça fera du bien qu'elle ait peur toute la nuit comme ça. Voilà. Puis on espère qu'elle sera là demain. Puis c'est pas grave. Mais le berger, il ne pense pas comme ça. Il a vu qu'il en manquait une. Il en avait 99, il a dit, oh, bon, 1%, c'est pas grave. Non, non. Il a casé les 99, il est allé chercher l'autre jusqu'à ce qu'il la trouve. Michée fait appel à ce Dieu-là, qui a le cœur d'un berger, et qui va nous chercher, et qui nous relève, et qui nous ramène. Pourquoi est-ce que Michée se tourne vers ce Dieu-là? Eh bien, je vais lire avec vous les versets 18 et 19. Et vous comprendrez pourquoi il fait appel à ce Dieu-là. Michée chapitre 7, verset 18, il dit « Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité et qui oublie les péchés du reste de ton héritage? Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. » Il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités, il jettera au fond de la mer tous nos péchés. J'ai mal lu. C'est tu jetteras au fond de la mer tous nos péchés. Pourquoi tu? Là, tout d'un coup, il change. Il parlait de il, et tout d'un coup, il passe à tu. Il parle de Dieu qui est différent de tous les autres. Et après, quand il passe à tu, il exprime sa confiance à Dieu. Il croit à cette restauration. Il dit, oui, tu es un Dieu qui pardonne, tu es un Dieu qui prend plaisir à la miséricorde, tu es un Dieu qui sait, qui ne garde pas sa colère à toujours. Il y a un moment où tu es en colère, mais ça passe. Et puis tu retrouves cette compassion. Et il dit, je sais, tu jetteras au fond de la mer tous nos péchés. C'est-à-dire, tu les mettras hors de ta vue, et tu nous recevras. Oui, ce que nous vivons, c'est peut-être que c'est nous qui nous sommes mis dans cette situation. Mais il dit, mais Dieu, là, je me tourne vers toi. Vous savez, et nous devons, nous regardons, nous voyons notre situation, et peu importe ce qu'elle est, et surtout spirituellement notre situation, mais après il y a psychiquement, puis il y a physiquement, tout ça, il dit, mais pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Et il est digne de mon attention, et sans lui, je ne pourrai rien. Et vers qui irions-nous, comme il a été dit déjà au début de l'heure, vers qui irions-nous, disaient les disciples, car toi seul, tu as les paroles de la vérité. Donc, plaçons notre confiance en la parole de Dieu et levons-nous. et allons de l'avant. Dieu a des choses pour nous. Dieu a réserve des choses. Et même si nous passons par des tempêtes, même si nous passons par des moments difficiles, mais Dieu est toujours là. Et nous pouvons compter sur lui. Et il sera glorifié. Et voilà, et si nous avons péché, eh bien, là aussi, il est prêt à pardonner, à restaurer. Et donc, faisons confiance. Je regarderai vers l'Éternel. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Et que ce soit vrai pour chacun d'entre nous. Passons quelques moments dans le silence et que chacun s'évalue lui-même ou fixe certaines pensées dans son cœur afin qu'elles soient là quand il en a besoin. Et après quoi, je prierai.